Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
Sur le devant de la scène, le malaise des policiers s'incarne depuis lundi dernier. Des forces de police qui manifestent en dépit de leurs droits de réserve et appellent à une réaction politique. On l'a évoqué tout ce week-end. On en parle maintenant avec Christian Moana. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue au CNRS et au CESDIP, spécialiste des questions de police et de justice. Maïwenn Guizhou, la reporter des matins, est allée à la rencontre d'une policière qui exprime son ras-le-bol. On l'écoute.
Il y a un ras-le-bol général. Cela fait des mois, voire même des années que l'on se bat pour avoir un peu plus de moyens sur le terrain, des moyens humains. Et on a l'impression qu'il y a un espèce d'autisme des politiques. Les collègues ont peur d'aller sur la voie publique parce que ils manquent toujours un gilet. Ils sont pas assez pour aller sur le terrain, simplement. Ils ne sont pas assez. Il faut aussi voir dans quelles conditions les fonctionnaires de police travaillent actuellement. Nous avons des commissariats qui sont juste en état de délabrement total. Ceux qui étaient animés par le métier de policier il y a quelques années ne le sont plus du tout aujourd'hui. Ils ne le sont plus. Il y a un ras-le-bol général.
Le témoignage donc d'une fonctionnaire de police, membre du syndicat Unité SGP Police. Votre opinion, Christian Moana, au sujet de ce que l'on vient d'entendre, est-ce représentatif de ce que les policiers pensent ?
Oui, tout à fait. On entend d'abord parler des moyens matériels, on entend parler de la peur des policiers qui ont peur d'aller sur le terrain, qui ont besoin d'être très nombreux pour y aller. Et je dirais en filigrane, on entend aussi un peu le désespoir de gens qui ont l'impression de ne plus maîtriser leur métier, de subir à la fois ce qui se passe sur le terrain, comme ils disent, et puis de subir aussi une organisation très lourde, très bureaucratique, un peu inhumaine.
Alors on parlait non pas de sécurité mais de sentiment d'insécurité. Est-ce que là, il faut parler aussi d'insécurité des policiers ou de sentiment d'insécurité, Christian Moana ?
Tout dépend dans quel secteur on est, puisqu'il y a des quartiers, des villes qui sont extrêmement différents de ce point de vue-là. Mais il est clair que dans certains secteurs, les policiers se sentent complètement des corps étrangers. Ils n'ont contact avec les personnes qu'à travers des contrôles d'identité. Donc on est ils se sentent effectivement en danger et on peut voir que concrètement, il y a assez fréquemment des agressions, des jets de projectiles sur leur voiture, des insultes, des crachats. Donc c'est une situation assez difficile à vivre.
Et donc c'est parfaitement justifié.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est aussi d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé à cette situation-là. Comme c'est dit dans le témoignage, ils ont besoin d'être nombreux pour aller dans un secteur, ce qui fait que quand, par exemple, il y a des appels de police-secours dans certains secteurs, la nuit, il faut attendre d'avoir deux ou trois voitures de police qui se regroupent pour intervenir. Et de ce fait, les gens qui attendent, parce qu'ils ont appelé police-secours, ils attendent très longtemps. Donc on a une espèce de cercle vicieux où moins les policiers arrivent facilement à intervenir dans un secteur, moins ils interviennent de facto et plus les gens n'aiment pas leur police ou détestent leur police. Et donc, ça tourne un petit peu en rond.
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. Tout d'abord, sur l'attitude de la population vis-à-vis de la police, les Français conservent très largement une opinion positive de leur police, Christian Moana.
Oui, tout à fait. Alors ça, on a des chiffres, des sondages depuis très longtemps qui montrent qu'on est à 75-80% de gens qui apprécient la police. Mais là, on est un peu piégé par des moyennes nationales, puisque d'un secteur à l'autre, on voit bien comment ces appréciations varient. Notamment, on sait que dans les quartiers, dits quartiers sensibles, l'image de la police est beaucoup plus dégradée. Et quand on parle aux jeunes, quand on fait des sondages auprès de jeunes, par exemple, notamment ceux issus de minorités visibles, entre guillemets, on voit bien que l'image de la police, là, elle est très, très dégradée. On arrive à 80% de gens qui disent ne pas aimer la police. Et j'insiste, ce ne sont pas forcément des délinquants ni des gens qui ont des choses à se reprocher. Ce sont des gens qui, au quotidien, n'ont contact avec la police qu'à travers les contrôles d'identité, les fouilles pour trouver des produits stupéfiants et qui ont l'impression d'être harcelés par la police.
On écoute toujours le témoignage de cette policière qui est allée rencontrer Maïwenn Guizhou.
Nous, on demande une plus grande fermeté de la justice envers les agresseurs de fonctionnaires de police, notamment en ce qui concerne les mineurs. Parce qu'aussitôt arrêtés, aussitôt relâchés. Ils ont l'impression d'avoir la justice de leur côté et du fait qu'ils se permettent d'agresser des fonctionnaires de police au quotidien. Parce que c'est aussi le quotidien des fonctionnaires de police. Le dialogue est rompu entre les jeunes et la police. Que ce soit dans le 16e, que ce soit dans le 8e ou ailleurs, la donne, elle ne change pas. Il n'y a pas que les jeunes de cité. Au jour d'aujourd'hui, oui, je peux le dire. Il y a un « eux » et un « nous ». Ça ne l'était pas, il fut quelques années auparavant. Ça l'est devenu avec le temps. Il y a un fossé qui s'est créé et c'est bien dommage.
Est-ce nouveau ?
Non, ce n'est pas nouveau, puisque déjà le rapport Perfit en 1977 soulignait un fossé entre la police et la population, notamment les jeunes, notamment les quartiers ouvriers, etc. Donc on a quand même quelque chose qui date depuis longtemps, mais qui finalement s'est certainement accentué, notamment à la suite de la fin de la police de proximité, qui était une tentative certes timide, mais néanmoins qui avait le mérite d'exister, de rapprochement entre la police et la population. On voit bien que les politiques de sécurité, de contrôle mises en place à partir de 2001, font que les policiers sont de plus en plus obligés d'être dans une attitude de contrôle, de pression, de répression. Et finalement, on a l'impression, à entendre ce témoignage, que la seule solution, c'est de mettre les gens en prison. D'abord, il y a une méconnaissance, je pense, de beaucoup de policiers de comment fonctionne l'appareil judiciaire. C'est pas parce que les gens ne sont pas condamnés immédiatement à la prison, qui n'auront pas affaire à la justice par la suite, mais c'est pas forcément visible dans les commissariats. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a annoncé plusieurs mesures visant à donner l'information aux policiers, puisque contrairement à ce qu'on croit, il y a plein de choses dont ils ne sont pas au courant, quand les gens sont condamnés à des peines, etc., quand ils ont... parfois, on peut exécuter une peine de prison plusieurs mois après la condamnation au tribunal. Il y a des gens qui sont suivis, ce qu'on appelle le milieu ouvert, avec des contrôles de la part de l'administration pénitentiaire, etc., sans aller en prison. Et tout ça, finalement, dans l'état d'esprit des policiers, mais je dirais comme dans l'état d'esprit de l'ensemble des Français, tant qu'on ne va pas en prison, on n'est pas sanctionné. Or, il y a des amendes, il y a des tas de choses qui pèsent sur les gens qui sont condamnés.
Donc la critique de laxisme, elle est, à votre avis, disproportionnée ?
Elle est totalement disproportionnée dans la mesure où on voit bien comment le nombre de personnes qui sont incarcérées n'a cessé d'augmenter, y compris... Lorsque Christiane Taubira était au ministère de la Justice, on a toujours dit qu'il y avait moins de gens en prison. Non, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation très très forte. Il y a de plus en plus de gens qui vont en prison pour des petites peines. À délit égal, les condamnations sont plus lourdes. Alors évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde en prison parce que, comme vous le savez, les prisons sont déjà débordées. Parfois, il faut attendre avant d'exécuter, comme on dit, la peine de prison. Et l'autre question, c'est est-ce que la prison est vraiment une si bonne réponse que ça? On sait qu'en prison, il se passe un certain nombre de choses. Il y a des contacts qui se créent, il y a des groupes qui se créent. On en a parlé un peu pour la radicalisation. Bref, il n'est pas évident que la prison soit la bonne réponse.
Alors, si on essaye de regarder les chiffres, on se rend compte, selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, qu'on comptait en 2015 5674 blessures infligées à des policiers, dont 430 avec armes. Et si l'on prend cette fois-ci les décès consécutifs aux agressions, eh bien ceux-ci sont très rares. Autrement dit, on n'observe pas, du point de vue des chiffres, en tout cas Christian Moina, une augmentation sensible des agressions contre les policiers. Cela signifie-t-il qu'il faut regarder autre chose que les chiffres, que les chiffres sont mal faits ?
Alors, les chiffres posent toujours le même problème. Il y a les agressions qui se passent, il y a celles pour lesquelles un policier va porter plainte ou ne pas porter plainte. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis 20 ans que je regarde fonctionner les policiers, à une certaine période, disons que quand quelqu'un se faisait insulter ou agresser, le policier, il pouvait de temps en temps répondre quand il avait envie de répondre sans forcément faire un cas judiciaire. Maintenant, la tendance, et on peut s'en féliciter peut-être quelque part, est plutôt de porter plainte, de signaler. Bon, à l'inverse...
Alors ça, par contre, c'est sensible, parce que donc... les poursuites pour outrage et rébellion, elles ont doublé, le nombre de signalements a quintuplé, donc ce qui prouve qu'il y a véritablement de nouveaux phénomènes dans le rapport de la police à la population, en tout cas dans le signalement.
Voilà, c'est ça, les signalements sont évidemment plus importants. Il faut voir aussi qu'il y a un certain nombre de textes de loi qui ont accru les peines ou les possibilités de sanctions, voire de dommages et intérêts pour le policier qui a été outragé ou insulté. Donc tout ça alimente le fait que les policiers déposent plus facilement plainte. Il y a aussi un rapport à la violence.
Est-ce que le seuil de tolérance a baissé ou...
Mais certainement, parce qu'il y a, comme dans toute la société, il y a une tolérance à la violence, et là aussi on peut s'en féliciter, qui a tendance à baisser dans la population et chez les policiers, c'est-à-dire qu'on va supporter bien moins d'être agressé verbalement, physiquement, va plus facilement déposer plainte. C'est vrai aussi pour les policiers. Comme je le disais auparavant, le policier pouvait se permettre de coller une gifle, par exemple, à quelqu'un qui l'insultait. Maintenant, il va hésiter un peu plus à le faire. Pas toujours, mais enfin, c'est un peu plus compliqué, plus difficile en tout cas. Et de la même façon, il y a un peu plus de surveillance des comportements policiers, ne serait-ce qu'avec les téléphones mobiles qui permettent de filmer plein de choses et très facilement.
Mais on a quand même l'impression d'un ensauvagement. Ce terrible fait à Viry-le-Châtillon où donc une voiture de policier a été visée par un cocktail Molotov, on a l'impression quand même d'avoir affaire à de la violence brute et on se dit que cela n'existait pas auparavant parce qu'on a mauvaise mémoire.
Que ce soit d'une violence atroce, c'est évident. Il y a tous les jours des policiers qui se font agresser, qui se font attaquer. Mais hélas, ce n'est pas un phénomène si nouveau que ça, puisque on peut repenser aux manifestations de policiers en 2001 ou en 83. À chaque fois, il y a un policier tué par des bandes plus ou moins organisées, des malfaiteurs ou des gens. On voit bien que cette violence, elle existe depuis très très longtemps. Et pour avoir tourné déjà il y a très longtemps avec des policiers en patrouille, il y a des endroits où il y a toujours eu de l'agression.
Ce qui veut dire qu'il y a toujours eu ces zones où les policiers pénétraient en quelque sorte de manière réticente ou ne pénétraient pas du tout. Est-ce qu'il y a des lieux où les policiers aujourd'hui ne vont pas, Christian
Alors,
Moinin ?
Les policiers vont partout. Toute la question est de savoir à combien de policiers il faut être pour pénétrer certains quartiers. Et c'est là où ça renvoie à la question de la police de proximité quelque part, puisque auparavant, on voyait que certains policiers à pied arrivaient à tourner dans certains quartiers. On parle de la Grande Borne. Mmh. Il y avait des îlotiers très connus à la Grande Borne pendant 10-15 ans qui ont tourné, qui tournaient à pied, sans se faire agresser, qui réussissait à vivre finalement ou à survivre relativement bien. Aujourd'hui, on est arrivé à un système où on n'a plus ces policiers qui connaissent bien le terrain hors période de tension. Donc, quand ils interviennent, c'est toujours quand il y a des tensions. Et puis, donc, on est dans cette logique d'affrontement beaucoup plus exacerbée par méconnaissance réciproque du policier et de la population.
Cette logique d'affrontement, est-ce qu'elle provoque plus de bavures qu'auparavant? On a vu notamment l'émotion soulevée par le cas d'Adama Traoré. Est-ce que là, on a affaire à des dérapages, à des bavures, à des violences injustifiées plus grandes, plus importantes qu'auparavant?
Mais là, c'est pareil, on est plutôt dans le dévoilement de choses qui existaient déjà auparavant. Il y a toujours des tensions, des policiers qui, entre guillemets, pètent les plombs, certains qui sont connus pour être un peu plus agressifs que d'autres. Ils sont connus dans certains secteurs. On sait que tel policier pose problème ou tel groupe de policiers. Donc on est bien avec des gens qui parfois hésitent à porter plainte. Je parle des gens qui peuvent se faire contrôler abusivement, qui peuvent se faire bousculer. Ils sont parfois c'est très compliqué pour eux de déposer plainte, mais on voit bien qu'il y a de plus en plus de mouvements qui aident ces gens-là à déposer plainte, que même le ministère de l'Intérieur, à travers l'inspection générale de la police nationale ou le ministère de la Justice, s'intéresse plus à ces cas-là, alors qu'autrefois c'était quelque chose de nié. Plus les téléphones mobiles qui permettent de filmer et de mettre sur YouTube ou autre les films sur le comportement de certains policiers.
Christian Moinin, les revendications des policiers aujourd'hui, tout d'abord sur la question des moyens, ça veut dire d'autres armes.
Est-ce que la vraie question, c'est est-ce que c'est un problème d'armes? Je pense qu'on est dans une espèce de course à l'armement. On l'a vu avec les armes dites non létales, soi-disant non létales, les flashballs, les tasers, les policiers en sont équipés. Est-ce qu'ils se sentent mieux maintenant? Non. Est-ce que s'ils peuvent tirer plus facilement, ils seront plus en sécurité, on peut en douter. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aux États-Unis dans certaines villes où les policiers ont l'habitude de tirer facilement et la situation est devenue encore pire. Donc, à un moment, il faut se poser la question si cette course a toujours plus de répression, toujours plus d'armes, est vraiment une bonne réponse. À mon avis, je pense que non. Il faut plutôt essayer d'apaiser les tensions, de voir comment la police peut travailler dans certains quartiers, mais en s'appuyant sur la population et non pas en étant dans une logique de contrôle sans arrêt.
La question de la légitime défense?
C'est extrêmement difficile. On voit bien comment le rapport à l'arme est déjà compliqué, puisque certains policiers hésitaient à utiliser trop, et hésitent toujours, je pense, à utiliser leur arme, parce que, peu de policiers, je pense, apprécieraient de tuer quelqu'un. C'est une arme, c'est dangereux, les balles sont assez puissantes, on peut faire des victimes collatérales. C'est pas quelque chose de simple à utiliser. Donc, pour les policiers, leur donner plus de facilité, c'est aussi leur donner plus de responsabilité et toujours le risque, quelle que soit la loi, de se voir assigné au tribunal parce que il y aurait eu une utilisation abusive de l'arme.
Le sentiment d'avoir à effectuer des missions inutiles, telles que par exemple ces missions statiques qui semblent exaspérer les policiers, on comprend mal pourquoi elles les exaspèrent et on se dit que cela va être compliqué dans les circonstances actuelles avec évidemment une lutte contre le terrorisme qui est omniprésente. Ça va être compliqué de remplacer ces policiers, Christian Moana.
Déjà, on pourrait poser la question de l'utilité de ces gardes statiques. À quoi ça sert d'avoir quelqu'un devant un immeuble, une personne ou deux personnes qui sont là à attendre? Finalement, quand on a vu les modes d'agression de terroristes à Paris, on peut se demander s'il y avait eu deux policiers devant le Bataclan ou devant Charlie, à ce moment-là, ça aurait servi à quelque chose, ou s'ils auraient été abattus en premier, parce que on voit bien, c'est logique terroriste. Donc, c'est premièrement posé.
On se dit plutôt que les gardes statiques, dans ces cas-là, auraient servi à quelque chose, non?
Mais je pense que je suis pas sûr, non, qu'elles aient servi à quelque chose. On a maintenant
alors
des caméras.
Comment faire pour protéger dans ce cas-là les...
Mais une caméra de vidéosurveillance, c'est peut-être là où ça peut être un peu utile.
Mais qui est des caméras ça ne répond pas.
Non. Mais qu'il y ait des gens qui soient dans les locaux, prêts à intervenir, pourquoi pas? Mais une garde statique devant un immeuble, on devient une cible. D'ailleurs, on l'a vu à Viry-Châtillon, où on avait un policier qui surveillait une caméra de vidéosurveillance. Donc on est quand même dans une logique un peu absurde, hélas, pour la personne qui a été victime. Donc on est quand même il y a plein de missions pour lesquelles la police est mobilisée. Finalement, c'est pour faire de la communication, puisqu'on met des policiers dans la rue, on a l'impression que ça va servir à quelque chose. Il n'est pas sûr, même qu'en termes de sentiment d'insécurité, ça marche si bien que ça.
Et alors, les remplacer par qui, par quoi?
Alors, les remplacer éventuellement, on parle de privatisation d'un certain nombre de missions. Est-ce que d'autres personnes peuvent assurer ces missions? Pourquoi pas? Mais la question à poser, c'est vraiment de redéfinir ce pourquoi la police doit être faite. Et à mon avis, il manque des policiers pour aller au contact à froid avec la population, pouvoir discuter avec les gens, pouvoir discuter avec les jeunes. Ça se faisait à une époque, ça se fait dans à peu près tous les autres pays d'Europe. Il n'y a qu'en France où on est un peu en panne là-dessus.
Christian Moana, je vais évidemment vous demander de faire des prévisions sur ce qui va se dérouler dans ce mouvement donc de colère des policiers. On a vu que François Hollande allait les recevoir mercredi. Est-ce que d'après vous, la colère va retomber?
La colère, elle existe depuis très longtemps. Les moyens ne sont pas toujours là. Il faudrait peut-être un grand plan d'équipement, mais vu l'état des finances, c'est compliqué. Il y a toujours de la mauvaise humeur parce que les policiers se sentent en insécurité, mais on voit mal le gouvernement actuel créer une nouvelle stratégie de sécurité alors que ça fait 4 ans et demi qu'il ne l'a pas fait. Donc on peut être assez dubitatif. Est-ce qu'un prochain gouvernement sera prêt à repenser, à mettre à plat les politiques de sécurité et à relancer d'autres stratégies comme c'est fait dans plein d'autres pays, comme c'est fait dans certaines villes américaines? Ou est-ce qu'on continuera à être dans cette spirale inflationniste, toujours plus d'armes, de sécurité, de répression, de contrôle, qui mène finalement à des tensions toujours plus fortes?